Avant de se rafraîchir et de plonger donc, eh bien, dans la boisson de ce week-end, nous accueillons Bart de l'association Les Polyculteurs. Bonjour Bart.
Bonjour.
Bienvenue donc au sein de cette antenne d'été de la radio Bob FM. Nous allons parler, eh bien, de culture, car effectivement nous pourrions citer Voltaire à de nombreuses reprises, mais il ne faut pas trop en abuser, puisque les polyculteurs, eh bien, cultivent leur jardin, effectivement, et cultivent très bien leur lieu, leur site du côté donc, de Saint-Cyr, avec eh bien, des accueils de résidences en tout genre, avec différents événements d'ailleurs. Alors les polyculteurs sont nés en 2016, il faut tout de même repartir donc de cette histoire puisque c'est la première fois que vous passez donc sur l'antenne du 89. Les polyculteurs sont nés sur quelle envie, sur quelle idée?
L'idée elle est double. La première c'était d'offrir un soutien à la culture, un soutien à la création surtout, en accueillant des artistes en résidence et en leur permettant voilà, de travailler sur leur pratique. Alors que ce soit des plasticiens, des photographes, des cinéastes, des danseurs, ce qu'on veut, hein, des circassiens, et j'en passe. Et le deuxième axe de cette association, c'est la promotion de la culture en milieu rural. Et du coup, on a eu envie voilà, d'associer les deux, en fait, d'organiser des événements autour du travail des résidents et par ce biais, en fait, favoriser la rencontre entre les habitants et les artistes en résidence. Et donc, à chaque fois, on essaie d'organiser... Enfin, en temps normal, hors crise sanitaire évidemment, on essaie d'organiser un maximum d'événements culturels pour que cette rencontre soit possible. Et ce qui est intéressant, enfin en tout cas les nombreux retours positifs qu'on nous a fait avec cette initiative, c'était que le public avait rarement l'occasion de discuter avec des artistes en cours de création. Souvent on va au théâtre, on va au cinéma, on va au cirque, et le spectacle il est fini, il est fait, il est construit, il est prêt à présenter. Et là, on peut discuter avec les artistes, il y a moyen de ça, mais on a rarement accès à ces discussions en cours de création. Et c'est très intéressant, autant pour les artistes que pour le public, d'avoir cette approche-là. Et ça, voilà, tout le monde on est assez friand, en fait, et ça marche assez bien.
Ça m'a paru comme étant peut-être une idée folle qui, en 2016, eh bien, se lancer dans cette aventure. Du côté donc, de Saint-Cyr, dans un petit village, au sein donc, de la campagne, où eh bien, ce fameux Obro accueille des artistes donc, en tout genre, tu l'as dit, hein, c'est cinéma, danse, cirque, voilà, tout y passe, entre guillemets, bien entendu. Comment, justement, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce côté donc, associatif, l'engagement, en tous les cas, pour défendre la culture. Encore plus donc, eh bien, au milieu de la campagne, puisqu'il y a déjà des structures, je pense aux centres nationaux, voilà, que ce soit les théâtres et autres, le cirque, qui fait déjà ce travail donc, de résidence auprès de ces artistes-là. Donc quelque part, je me suis aussi posé la question d'un point de vue économique, comment ce modèle peut-il être fiable, à savoir comment vous avez la capacité d'accueillir des artistes en résidence, de pouvoir leur proposer un hébergement en plus, et de pouvoir tout simplement les nourrir, voilà, et ce pendant 2 semaines.
Alors, nos conditions de résidence sont très simples. On met à leur disposition donc un gîte pour se loger et un espace de travail à prix libre, en fonction voilà, des moyens de chacun, parce que on veut pas que ça devienne un lieu accessible uniquement à certains privilégiés. On veut que, voilà, que tout artiste qui a besoin d'un espace de travail et de temps pour s'y consacrer puisse venir chez nous. Donc c'est assez récent, mais là ça date de cette année, mais on a mis le prix libre en place et ça marche très bien et tout, on est très content. Ce qui nous permet de couvrir en fait les charges tout simplement du lieu. Nous ne les nourrissons pas. Et c'est eux qui font leurs courses, leur cuisine. Okay. Ils peuvent aller faire des courses à vélo au village d'à côté. Ils ont leur petite cuisine, ils se débrouillent. Alors après, ça nous arrive évidemment de prendre des repas ensemble et on adore ça et on le fait. Et ça se fait en toute amitié, quoi, j'ai envie de dire. Très souvent. Mais voilà, ces conditions sont très simples. Et évidemment, la condition, c'est que ma compagne et moi, donc Marie, ma compagne qui est à l'initiative de ce projet au même titre que moi, nous sommes bénévoles, tout simplement. Il n'y a pas de salariés dans cette association. Pour l'instant, tout le monde est bénévole et nous avons notre activité professionnelle qui nous nourrit. Nous sommes tous les deux ingénieurs du son. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, de par cette activité professionnelle d'ingénieur du son que nous avons eu envie aussi dans le lieu de, d'ouvrir un studio d'enregistrement. Et ce studio d'enregistrement, il est à la fois un outil de travail pour nous, à titre personnel, mais aussi c'est un espace de travail pour les résidents musiciens qui peuvent justement se mettre en condition de studio pour travailler sur leur projet.
Alors je voulais définir les conditions tout simplement puisqu'il peut y avoir des jeunes artistes, je pense donc à certains élèves de l'ENSA qui font partie des gens qui écoutent la radio Bob FM et d'autres artistes qui débutent justement, qui n'ont peut-être pas accès puisque les artistes reconnus ont souvent accès donc à des lieux pour avoir des résidences, ils sont même souvent invités en résidence. Là en l'occurrence, donc tu viens d'expliquer toutes les fameuses conditions. Maintenant, vous de votre côté, quelles sont les conditions de... Est-il une, je ne sais pas, des critères de sélection, y a-t-il...
Eh bien, non, il n'y en a pas. C'est vraiment le plus ouvert possible. Ouais. Il faut quand même avoir un projet à présenter, qu'on puisse le lire en amont et en discuter. C'est pas toc toc toc, bonjour, je viens bosser. C'est, évidemment, ça se fait en amont. On peut nous contacter via notre site internet, lespolyculteurs.org. C'est le plus simple, et nous présenter un projet, voilà, j'aimerais travailler sur ceci, sur cela, je suis disponible à telle date, et nous, en fonction de notre calendrier, on essaye de caser tout le monde. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de réservations, on a de plus en plus de visibilité sur notre calendrier, et les prochaines plages disponibles sont à partir de janvier de l'année prochaine. Là, on est plein jusqu'en décembre.
Alors, et ça veut dire aussi que le temps est limité pour ces résidences sur 2 semaines ?
Non, pas forcément. Ah. Ça aussi, c'est libre.
Ok.
Ça nous est arrivé les années passées d'accueillir une auteure canadienne en résidence. Elle est restée 1 mois et demi. Mais le format le plus courant qu'on nous demande, c'est 1 semaine.
D'accord, parce que j'allais te demander en fonction justement des différents artistes qui viennent donc en résidence, le cinéma, des écrivains, des musiciens. Peut-être que pour la musique, 2 semaines suffit, 1 semaine suffise. Mais pour d'autres formes d'art, en tous les cas, le temps de création est extrêmement long.
Donc, oui, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que très souvent, les artistes font beaucoup de résidences. Un peu partout, ils essayent d'aller dans plusieurs résidences. Donc, leur objectif n'est pas d'avoir terminé leur travail en partant de chez nous. L'objectif, c'est d'avoir... Ils se fixent l'objectif qu'ils veulent, d'ailleurs. C'est pas à nous d'en décider. Mais ils se disent, pendant 1 semaine, ou 2, ou 3, ou 15, j'ai envie de travailler sur cet aspect-là de mon travail. Donc c'est à eux... évidemment, écrire un livre, ça prend plus qu'une semaine. Mais on peut avoir très bien envie d'une semaine, à ce moment-là, dans son calendrier, pour travailler sur tel ou tel chapitre. Je vous donne un exemple très précis. Il y a une jeune auteure limousine qui nous a contacté il y a quelques mois pour venir travailler chez nous, et elle ne savait absolument pas ce qu'elle allait écrire. Elle ne savait même pas ce qu'elle allait faire. Elle avait collectionné pendant des années des carnets, des photos, des choses, et elle s'est dit, il faut que je me lance, j'aimerais faire quelque chose avec ça, mais quoi ? Et bien justement, le temps de résidence, c'est un temps aussi, c'est un temps de réflexion, c'est pas un temps forcément de production. Il n'y a aucune obligation de résultat, c'est un temps... Que les artistes peuvent prendre pour faire une parenthèse dans leur quotidien, pour se consacrer à cette pratique et prendre le temps de se poser des questions, prendre le temps de réfléchir, de discuter. On essaye aussi d'ailleurs que ce temps de réflexion soit collectif quand c'est possible, c'est-à-dire que nous, en tant qu'accueillants, on participe aux discussions avec eux et on essaye d'avoir ces échanges-là avec eux. On peut leur apporter peut-être modestement ce qu'on peut leur apporter, mais en tout cas, ils sont toujours en demande de retour et de discussion. Mais on essaye aussi de mettre en place des résidences croisées, c'est-à-dire d'accueillir dans le lieu quelqu'un qui travaille sur un film et puis quelqu'un qui travaille, sur quelque chose de plus graphique, par exemple un peintre. Et leur travail n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre, ils ne se connaissent pas. Mais pendant 1 semaine, ou 2, ou 3, ils vont vivre ensemble et pouvoir échanger sur leurs pratiques réciproques. Et ça, c'est très très nourrissant. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, on essaie de mettre ça en place. Alors évidemment, encore une fois, avec le Covid, C'est compliqué de faire cohabiter deux personnes qui ne se connaissent pas dans un même appartement. C'est un grand appartement avec trois chambres doubles qu'on met à disposition. Donc on a une capacité d'accueil de 6 personnes. Mais bon, on se marche pas dessus. Mais toujours est-il qu'il faut, en temps de Covid, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Mais après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. En tout cas, les résidences croisées, on essaie de les mettre en place. Et il y a un nouveau dispositif qu'on a mis en place cette année aussi, c'est ce qu'on appelle les résidences aidées. C'est-à-dire que l'hébergement, les frais de nourriture et de déplacement sont pris en charge par l'association. Et ça, pour le coup, c'est un dispositif sélectif. C'est-à-dire qu'on a lancé un appel à résidence au début de l'année. On nous a envoyé des dossiers. On a créé une commission de lecture. On a voté pour le projet qui nous plaisait le plus. C'est très subjectif, évidemment.
Bien sûr, bah oui.
Cette année, il y a une lauréate en cinéma, qui est d'ailleurs en résidence chez nous en ce moment même. Et il y a une troupe aussi qui est lauréate en musique, création sonore, qui sera en résidence cet automne. Et voilà, il y avait deux projets en fait qui ont été sélectionnés cette année. Et l'année prochaine, on espère renouveler ce dispositif en proposant d'autres pratiques. Danse et... Et art plastique, par exemple. Mais ça, c'est pas encore défini.
Mais ça sera à définir, et peut-être bien que vous, qui écoutez la radio, vous serez peut-être sélectionné. J'imagine que parfois, les rendus de résidence ne doivent pas être faciles. Si, par exemple, en l'occurrence, si on prend le cas d'une auteure qui vient sur place pour justement prendre le temps de réfléchir à quelle forme donner donc à son livre. Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, quel est le rendu de résidence dans ces cas-là ?
Eh bien,
c'est le processus de création qui est expliqué aux gens ?
En fait, le détail, la subtilité, si je puis dire, c'est qu'ils ne sont pas tenus d'offrir, entre guillemets, une sortie de résidence sur le temps
immédiat,
de résidence.
Okay.
Mais il peut être reporté si le projet n'est pas abouti ou s'ils veulent présenter à une autre étape de travail. Ils peuvent revenir quand ils veulent et présenter ça. Par exemple, nous avons reçu des réalisateurs qui venaient faire des résidences de montage. Mmh. On a convenu ensemble qu'ils viendraient présenter leur film une fois terminé au public et qu'on organiserait une projection. Et ça peut prendre des années. C'est libre, c'est comme on veut.
D'accord. Voilà. Justement, est-ce que tu as des exemples, puisque vous avez commencé en 2016, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont censés faire un rendu de résidence ? Ou tout le monde est...
Oui, bien sûr. On va prendre pour exemple un jeune réalisateur qui est d'origine de Limoges d'ailleurs. Qui fait un film qui s'appelle 1, 2, 3, Viva l'Algérie, qui est un documentaire sur les liens entre la France et l'Algérie à travers l'histoire du football en fait, qu'on a en commun avec ce pays. C'est un documentaire qui met des années à se fabriquer, qui est en passe de se terminer. Donc il y a le montage image qui a été fait chez nous, il y a l'enregistrement de la voix off qui a été fait chez nous, et là en ce moment ils sont en train de travailler sur le montage son et sur le mixage, et on a prévu Duarte, si tu nous écoutes, on a prévu de faire une projection chez toi au Ciné Bourse de Saint-Julien.
Voilà, Duarte qui est le directeur donc du Ciné Bourse de Saint-Julien. Ouais.
D'organiser une projection de ce film là. On organise aussi des événements qui sont plus ponctuels et qui ne sont pas directement en lien avec les sorties de résidence des artistes qui viennent chez nous. Le prochain événement c'est jeudi prochain, le 5 août, de 17h à 3h du matin, ce qu'on a appelé une nuit de radio. C'est-à-dire que pendant 9 heures, on va consacrer la radio et le podcast en diffusant une sélection de programmes. C'est une sélection qu'on a faite avec comme thématique cette année « Territoires en lutte ».
Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. dans les différents sujets dans lesquels vous proposez des soirées, des diffusions au Ciné-Bourse de Saint-Junien. Il y a toujours ce côté terrien, en tous les cas, l'appartenance, et puis la notion du territoire, cette défense, en tous les cas, du territoire, qui est mise en avant, et ça sera le cas, effectivement, donc, le 5 août, à travers cette nuit de radio. Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre les 40 ans de la radio libre ou pas du tout?
Non.
C'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit... Non,
parce que en fait c'est une première édition, mais oui. c'est quelque chose qu'on espère faire tous les ans.
Ça tombe, écoute, pendant
qu'on aurait dû faire l'année dernière, oui. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres choses ont été annulées. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une annulation de dernière minute, qu'elle soit d'ordre
sanitaire
ou météorologique.
Hein, oui,
puisque c'est un événement en plein air. J'ai oublié de le préciser. C'est une écoute collective en plein air. On s'allonge dans l'herbe. Et pendant toute la nuit, on écoute une sélection de programmes de Radio France, d'Arte Radio, de Radio Parleur, de Radio Versivière, de Radio Kreitz-Breitz, de Jet FM, de Fréquence Paris Pluriel, de l'Association Sonore et Utopique. Enfin voilà, on a essayé de faire au plus large. Et donc on va parler du Limousin, de la Bretagne, du Larzac, de Bure. En Meurthe-et-Moselle, de Marseille, de Paris, tous ces territoires où il y a des gens qui luttent pour leur habitat, leur environnement. Et donc voilà, c'est une sélection de programmes. Vous trouverez d'ailleurs le programme détaillé sur notre site, lespolyculteurs.org. Et il y a à boire et à manger aussi sur place. Et voilà, on espère passer une belle soirée sous les étoiles.
Moi aussi, je vous le souhaite.
S'il ne pleut pas.
Exactement. Et puis, sachez également qu'une fois de plus, l'entrée se fera donc à prix libre à travers ces différents documentaires radiophoniques qui vous sont proposés. Un format d'ailleurs qui est très intéressant puisque il pourrait y avoir le même événement sous forme de documentaire vidéo cette fois. Mais je trouve que la radio et cette forme en tous les cas d'expression et de témoignage a une autre notion. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas le jugement, ou du moins le jugement se fait, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on est vraiment attaché donc aux mots cette fois-ci qui nous sont proposés. Là aussi, c'est une volonté, c'est une première de diffuser, de proposer ce genre de diffusion.
C'est vrai que ça offre vraiment quelque chose. Il n'y a qu'à faire l'expérience chacun chez soi de regarder un film et de fermer les yeux. Tout change, toute la perception change. C'est-à-dire qu'on est effectivement beaucoup plus concentré sur le propos. Et sur la forme sonore des choses. Et en tant qu'ingénieur du son, ma compagne et moi, évidemment, on est très sensibles à ça. Il faut également rendre hommage, et je profite de cette antenne pour le faire, à la SCAM qui organise chaque année ce qu'elle appelle la Nuit de la Radio, qui est une sélection de programmes qui dure 1h30 et diffusée dans des lieux en plein air, un peu partout en France, notamment au Festival de Lussas en Ardèche. Et c'est là qu'on a découvert ça en tant que festivalier, oui. Et on a adoré l'expérience qui est collective, justement. Et l'expérience d'écoute collective, c'est quelque chose de très particulier. Et on a eu envie de recréer ça, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire, non pas avec des casques, mais sur enceinte. Non pas sur une place de village, mais à la campagne, dans l'herbe. Et non pas pendant 1h30, mais pendant 9h. Enfin... Évidemment qu'on peut rentrer, sortir quand on veut. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va rester du début jusqu'à la fin.
Oui,
à part nous.
Coucher dans l'herbe, non, je ne pense pas.
Mais l'idée, c'est cette expérience collective là qu'on voulait essayer de mettre en place. Et si cette année, la thématique, c'est territoires en lutte, en fait, la thématique générale de ce mini-festival, c'est la convergence des luttes. Donc l'année prochaine, on va prendre un autre thème que le territoire. Mais voilà, c'est cette idée de convergence des luttes qu'on voulait un petit peu développer.
Mettre en avant à travers différentes thématiques, hein, puisqu'il y aura, suivant d'ailleurs les différents territoires qui seront mis en avant à travers ces documentaires, les différents témoignages, il y aura donc des sous-thématiques comme l'architecture par exemple. Je pense que Radio Vassivière vous a peut-être proposé un documentaire radio autour des forêts. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter ou pas, c'est ça ou pas?
Oui, par exemple sur Truffy.
Oh, ok.
Ouais, c'est notre premier... Notre premier programme à diffuser à 17h, c'est effectivement sur les coupes rases À Truffy, sur le plateau de Mille Vaches, et c'est effectivement un reportage de Radio Vessivière. Et il y a un autre documentaire sonore qui suit, qui lui est proposé par Radio Parleur, qui s'appelle Mille Vaches, les pieds dans le plateau. Et là, c'est plutôt sur l'accueil des migrants sur le plateau de Mille Vaches. Et effectivement, il y a des thématiques voilà, qui sont très locales et qui nous touchent au plus proche, puisqu'on est en Limousin, mais les problématiques sont exactement les mêmes en Guyane, à Marseille, à Paris,
dans l'est de la France, ouais, bien sûr, ouais.
l'agroalimentaire ouais. en Bretagne. Mmh. Voilà, et on va essayer de toucher un petit peu à tout ça. Alors, c'est très vaste, mais en une heure de programme, parce que c'est des programmes d'une heure qui se succèdent, en une heure de programme, on a le temps de développer un petit peu quand même. Et notamment, je voudrais prendre aussi, pour exemple, un documentaire sonore réalisé par Claire Gauss, qui est une de nos résidentes, et qui est venue travailler chez nous justement sur ce documentaire, sur un petit peu la folie du Grand Paris et c'est l'histoire d'une. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail, mais il y a toute une cité en fait magnifique conçue par l'architecte Iwona Bukowska, qui a été construite dans les années 80 et qui est menacée de destruction à cause des appétits fonciers et du Grand Paris. En fait, l'idée, c'est en gros, pour schématiser, c'est de tout raser et de reconstruire du neuf, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'on va faire des bénéfices sur ce genre d'opération. Alors que le lieu est exceptionnel, ça se passe au Blanc-Mesnil, et c'est vraiment un très très beau quartier, tout en bois, c'est une innovation architecturale extraordinaire, et ça serait vraiment une grande perte de le détruire, au point que les militants qui se battent pour que ça n'ait pas lieu, essayent de faire inscrire le site à l'UNESCO.
Très bien. Oui, histoire de le protéger, justement. Oui.
On en est là, quoi.
Ah, oui. Oui, parce qu'au-delà, les problématiques immobilières, il y a aussi les déplacements de population, généralement, puisque lorsque l'on fait du neuf, les loyers donc augmentent, sont un petit peu plus chers. Les populations qui vivaient peut-être à cet espace-là eh bien, doivent reculer un petit peu plus dans cette ceinture. Oui. J'ai eu l'occasion d'avoir Claire au téléphone, qui va nous proposer sur les ondes de la radio son émission justement liée à l'architecture. Ça sera donc à la rentrée, à retrouver sur la nouvelle grille des programmes. Et je lui ai parlé justement, eh bien, nous aussi, à Limoges, nous sommes... Pour l'instant, je dirais pas ni victime, ni, je ne sais pas comment le qualifier, mais disons que voilà, il y a un nouveau plan d'urbanisme qui est mis en place ici même donc à Beaubreuil et dans les différentes cités qui entourent donc la ville de Limoges. Et je pense qu'il y a des choses donc intéressantes à mettre en avant et pour communiquer donc eh bien au plus grand nombre. Dernière question, après je te lâche. Justement, si l'on souhaite participer à cette nuit de la radio, ou du moins une nuit de radio. Il y a le nombre de places, c'est limité. Comment ça se passe?
Alors, évidemment, on est tenu à une jauge limite de 49 personnes parce qu'on ne voulait pas mettre en place le pass sanitaire. Donc, étant donné que c'est très long et on peut rentrer et sortir, on va tout simplement compter et réguler voilà, le nombre d'entrées en fonction des arrivants. Mais je ne suis pas très inquiet, je ne pense pas qu'on va se battre pour empêcher les gens de rentrer, je pense que ça va très bien se passer. Mais en tout cas, ça a été vraiment une volonté de ne pas mettre en place le pass sanitaire et on va faire ce qu'on peut.
Merci beaucoup.
Dans ces conditions. Et voilà, je voudrais juste, pour les auditeurs que ça intéresse, leur préciser que voilà, tout notre programme est en ligne sur notre site lespolyculteurs.org et notamment à venir samedi prochain la projection du film Volem Rein Foot al Pais de Pierre Carles avec une sortie de résidence justement de notre résidente cinéaste lauréate des résidences aidées cette année. Donc la thématique, c'est on va dire la souffrance au travail. Et le deuxième événement que je voudrais signaler, c'est la fête annuelle qui a lieu chaque année en septembre. Cette année, ça tombe les 4 et 5 septembre, où on présente au public, c'est une exposition collective avec de la danse, de la musique, du cinéma, du théâtre, de la radio, et tous les résidents de l'année, donc de septembre 2020 à août 2021, viennent présenter leurs travaux. Et donc, voilà, le temps d'un week-end, il y a plein de choses à manger, si je puis dire.
Exactement. Et vous aurez l'occasion bien de retrouver cette interview, si cela vous intéresse, sur notre site internet bobfm.org, à travers eh bien, donc, les différents propos qui ont été présentés ici. Et bien entendu, je vous mettrai donc le lien pour retrouver tous les différents événements et les activités donc, liées aux polyculteurs sur leur site internet, lespolyculteurs.com. Merci beaucoup, Bart.
.org.
.org, pardon, c'est que j'ai sous les yeux les polyculteurs.wordpress.com. Bref, je mettrai le bon lien, ne vous inquiétez pas. Bon après-midi.
Merci à
toi.
À
très bientôt.
Merci à tous.
Et puis vive la radio, bien entendu, et vive les documentaires radio, puisqu'on en diffuse très régulièrement et on vous incite et on vous invite à en écouter le maximum.